On va d'abord lire un passage dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Hébreux 11, verset 13. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Début de ce verset 13, c'est tous ceux-ci. Je voudrais juste noter au départ ce pluriel. Les ceux-ci, ce sont ceux dont il est parlé avant, et je pense que vu le reste du paragraphe, cela concerne essentiellement les personnes du verset 8 au verset 12, donc Abraham, Isaac et Jacob, Sarah, dans l'ordre où ils apparaissent. On pourrait dire Abraham, Sarah et puis Isaac et Jacob, mais chronologiquement. Ceux-ci qui sont vus tous ensemble. Et il s'agit en fin de compte d'un groupe qui a quelque chose de commun par rapport à ce qui suivra verset 23. Verset 17, il sera encore parlé d'Abraham sous un autre angle. Mais ce sont ces croyants de ce temps, après Noé et avant la mise à part du peuple d'Israël. Les patriarches entre le déluge et le temps de la loi et le temps de la formation du peuple d'Israël. Qui avait un chemin particulier. Les croyants d'avant le déluge, si on regarde les chronologies, les âges de tous ces patriarches d'avant le déluge, on voit qu'ils ont été pour la plupart contemporains les uns des autres sur plusieurs générations, 3 ou 4 générations facilement. On voit que par exemple, peu de temps avant le Noé, avant le déluge, il y a 3 générations qui s'en vont. Le père, le grand-père, les arrière-grands-pères de Noé ont vécu jusque très proche du déluge. Donc des générations qui se chevauchaient largement et où il y avait une transmission de ce chemin de la foi, de cette espèce de témoin, pense à la course de relais, cette course où les coureurs se doivent se passer un bâton l'un à l'autre, ce témoin qui est bien, le mot le dit bien, c'est le témoin que le message est passé de l'un à l'autre. L'un tend le témoin, l'autre le prend et continue la course. Et il y a cette course avant le déluge où tous ces gens se connaissaient, se sont connus, ont partagé, ont vécu ensemble dans ce chemin de la foi, avec une proximité des choses du commencement. Abraham, c'est un nouveau départ, si on peut dire. Il y a eu le déluge. Et puis là, il y a... Je dis le mot, mais c'est un mauvais mot, comme un flottement. Non, il n'y a pas comme un flottement, comme une préparation avec Terak de ce qui va venir. Et puis Abraham qui est appelé hors de son pays, appelé hors pour aller vers. Sortir de quelque chose pour aller vers quelque chose qui est pour lui un inconnu. La seule chose qu'il sait, c'est que c'est Dieu qui lui a dit de faire ça. Et c'est Dieu qui lui a dit qu'il le conduirait, et qu'il le guiderait, et qu'il serait avec lui. Et à l'issue de tout cela, le pays promis, ni Abraham et Sarah, ni Isaac, ni Jacob n'en ont profité. Ils l'ont vu, ils l'ont parcouru, mais ils n'y ont pas vécu, ils ne s'y sont pas installés, ils n'ont pas goûté à ce pays de la manière dont Dieu leur avait parlé. Un pays préparé pour eux. Alors il nous est dit là, tous ceux-ci sont morts, oui, ils sont morts, mais ce n'est pas ça qui est relevé, ce n'est pas la mort du corps, c'est la manière dont ils sont allés leur chemin jusqu'au bout de leur vie terrestre. Tous ceux-ci sont morts dans la foi. Et cette expression « mort dans la foi », c'est une expression qui vaut la peine de s'y arrêter, de la méditer, de la réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire? ce que ça veut dire. La suite du verset, les versets qui suivent que j'ai lus, nous en expliquent plusieurs facettes et on doit probablement aller bien plus loin encore que ce que simplement l'Épître aux Hébreux nous dit. N'ayant pas reçu les choses promises, il y a ces choses promises et puis où on en est par rapport à ces choses promises. Ben là, il est dit, ils ne les ont pas reçues. Elles ont été promises, mais ils ne les ont pas reçues. On pourrait dire, mais c'est un échec. Elles ont été promises, ils n'ont pas reçu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette promesse? On a un premier éclairage là sur ce qu'est cette foi qui voit au-delà de ce qui est visible à l'œil, de ce qui est la vie sur terre et la mort. Ils ne les ont pas reçus, mais ils sont morts dans la foi. Donc ils ne les ont pas reçus de leur vie terrestre, mais ils les ont reçus pourtant par la foi en les voyant dans un autre temps où ils les recevront. Un temps qu'ils ne pouvaient pas imaginer, qu'ils ne connaissaient pas. Les choses concernant ce qu'est notre espérance, ce que nous attendons, n'ont été révélées que petit à petit tout au fil de ce temps de la marche des croyants et de la marche de la conduite de Dieu avec les croyants. Mais c'est comme s'ils avaient dit, oui, je m'en vais sur cette terre, mais je sais que Dieu a préparé autre chose où je les recevrai. À une autre sphère, un autre domaine, une autre vie, où là, ces promesses se réaliseront. Mais alors, la suite de la phrase est une belle image. Les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. On a ces images autour de l'image qu'utilise la parole de la cité céleste et qui est évoquée ici, verset 16. Dieu leur a préparé une cité. On a beaucoup de dessins, de peintures qui ont été faites avec le désert, une ville qu'on voit dans la brume au lointain et le pèlerin, le voyageur qui marche. Et c'est bien une image qui nous parle. Il y a cette cité céleste. Il y a cette patrie à venir qui se voit dans le lointain, mais qui ne se voit que par la foi. Et qui alors nous fait voir notre marche sur la terre avec un autre regard. L'homme sans Dieu, comment il voit la marche sur la terre? Il la voit, il y a plusieurs manières de la voir, mais une manière de la décrire, c'est que tout premier, il commence par ne pas se soucier du bout de cette marche. Ça, c'est loin, c'est quand je serai vieux, c'est pas maintenant. Et puis alors maintenant, il y a plein de choses à découvrir, il y a plein de choses à conquérir, il y a se faire une vie, se faire une carrière, se faire un nom, voilà, faire fortune, tout ce qui est des choses à construire, qu'on croit être solide, qu'on croit être la solution, qu'on croit être quelque chose qui apportera la pleine satisfaction et qui nous échappe, d'une part, qui nous échappe au fur et à mesure qu'on court après, et d'autre part, quand on les a, laisse insatisfait et appelle à aller vers autre chose, vers toujours plus, jusqu'à ce moment où toutes ces choses commencent à s'effriter petit à petit, perdre leur valeur, perdre leur sens, perdre leur importance, tromper, montrer qu'au fond, elles n'apportent rien. Voilà la vision de l'homme qui marche sans Dieu. Dans quelle mesure en a-t-il conscience, en prend-il conscience? Dieu le sait. Il parle à chaque homme pour qu'il en prenne conscience. Le croyant, lui, il voit ces choses de loin. Et sa vie sur la terre, ayant salué ces choses qu'il voit de loin. C'est comme quand on fait, pour prendre une image, on fait une randonnée en montagne, et puis on arrive au sommet, et là on voit la vallée en bas, où on va redescendre tout à l'heure. Ou bien la même image, mais d'une autre manière, on est en train de monter, le sommet se cache. Et à un moment, un débouché, le sommet se voit, on le voit. C'est là-haut qu'on va monter. Et si je suis limité dans mes capacités, ce sommet est inaccessible pour moi. Si je vois le Cervin, je ne pourrais pas monter sur le Cervin. Ce n'est pas possible. Je ne suis pas capable de monter au Cervin. mais je le vois comme étant le but. La cité, ces choses promises, on les voit de loin et on a les yeux tournés vers elles. Et ça marque notre marche, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur cette terre. Toutes les choses qui sont à droite, à gauche, derrière moi, quelle importance. C'est plus elles qui comptent, c'est celles que je vois au lointain et que je vois par la foi qui compte. Toutes ces autres choses, on les utilise, on y passe vraiment en passant, parce que ce sont des nécessités de la terre, des nécessités de la vie. Il y a tout le registre, pour être sur un registre parallèle, tout ce qui est de la création qui nous apporte une vue des merveilles de Dieu. Mais ce n'est pas ça que nous cherchons. C'est par ça que nous pouvons être encouragés quant à Dieu lui-même. Mais ce que nous cherchons, c'est ce qui est au-delà, ce qui ne se voit pas des yeux. Alors, verset 14, ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Quand on est forain, voyageur, étranger, en route, on a un but. C'est pas juste tourner en rond, revenir toujours au même point et repartir toujours le même circuit. Non, il y a un but. Ce but, c'est l'endroit où je ne serai plus étranger et forain. C'est l'endroit où je serai chez moi, où je serai arrivé, où j'aurai ma place, j'aurai comme un droit de cité, c'est-à-dire une citoyenneté là. Ils recherchent une patrie. Et alors, le verset 15 nous montre l'alternative qu'il y aurait pu y avoir si la foi n'était pas en action. En effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Ben oui, voyons la longueur de la vie d'Abraham. Quand le serviteur d'Abraham est allé chercher une épouse pour Isaac, il a fait le voyage, c'était pas si long que ça. Il a ramené Rebecca, c'était pas si long que ça. Quand Jacob a dû fuir et aller chez Laban, il a fait le voyage, il est revenu. Il pouvait faire le voyage de retour plusieurs fois dans leur vie. Mais justement, cette idée de voyage de retour n'avait pas de sens pour eux parce qu'ils avaient le regard tourné en avant. Et le fait qu'ils soient restés dans ce pays où ils étaient étrangers, mais qu'ils avaient reconnu comme étant le pays promis, montre que leur foi n'envisageait absolument pas un retour en arrière. Ils auraient eu du temps pour y retourner, mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ils avaient compris que la promesse, si elle avait une composante terrestre, si je peux le dire ainsi, c'est ce qui concernera Israël, elle avait aussi une autre composante qui n'était pas terrestre, qui n'était pas de ce monde, qui était céleste. Et c'est très beau de voir que ces patriarches-là ont vu essentiellement cette composante dans leur foi. Abraham n'a pas marché pour le pays promis. Abraham, Isaac, Jacob, ils n'ont pas marché pour le pays promis. Ils ont arpenté ce pays en long, en large, en travers. Ils l'ont vu, ils l'ont apprécié, mais ils ont marché en comprenant d'une manière impalpable qu'ils auraient une autre part, que leur part serait au-delà. Et alors la conclusion de ce paragraphe, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte de savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu s'appelle leur Dieu. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Voilà la manière dont Dieu se présente dans la suite. Il se réfère à Abraham, à Isaac et à Jacob comme étant leur Dieu, comme étant celui que leur foi a saisi. Et en rendant en quelque sorte honneur à cette foi, il met en avant la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui tous trois, et Sarah qu'on peut ajouter aussi, elle est nommée avant, qui tous quatre ont saisi la promesse de Dieu malgré toutes les apparences terrestres qu'elle semblait ne pas se réaliser, et qui, en saisissant cette promesse, voyaient au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui est terrestre. Et Dieu, il leur a préparé une cité. Il tient compte et il a préparé ce qu'il faut, la réalisation de ce qu'ils ont cru. Ils ne l'ont pas vu sur la terre, ils le verront dans le temps à venir. Là, on ne peut pas dire vraiment dans quelle mesure ces patriarches, ils jouissent déjà de quelque chose. Nous, on utilise l'expression « être avec Christ ». Dans un sens, ça peut s'appliquer à eux, mais sous une forme différente. Ils n'ont pas connu Christ comme nous le connaissons, mais ils le connaissent maintenant peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette réalisation qui est assurée et certaine. Alors, c'est un côté, c'est une facette de cette foi que je voulais relever. Et puis, alors, je voudrais lire un autre passage avec une autre facette très différente dans le deuxième livre des Rois. Au chapitre 6. On va lire à partir du verset 8. Or le roi de Syrie faisait la guerre contre Israël, et il tint conseil avec ses serviteurs, disant, en tel et tel lieu sera mon camp. Et l'homme de Dieu envoya au roi d'Israël, disant, garde-toi de passer par ce lieu-là, car les Syriens y sont descendus. Et le roi d'Israël envoya au lieu au sujet duquel l'homme de Dieu lui avait parlé et l'avait averti, et il y fut gardé. Cela eut lieu non pas une fois, ni deux fois. Et le cœur du roi de Syrie fut agité à cause de cela. Et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne me déclarerez-vous pas qui d'entre nous est pour le roi d'Israël ?» Et l'un des serviteurs lui dit, « Personne au roi, mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, déclare au roi d'Israël les paroles que tu dis dans ta chambre à coucher. » Et il dit, « « Allez, voyez où il est, et j'enverrai, et je le prendrai. » Et on lui rapporta, disant, « Le voilà à Dothan. » Et il envoya des chevaux et des chars et de grande force, et ils allèrent de nuit et environnèrent la ville. Et celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une armée entourait la ville, et des chevaux et des chars. Et son jeune homme lui dit, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Et il dit, « Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et Élisée pria et dit, « Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du jeune homme et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et les Syriens descendirent vers Élisée et il pria l'Éternel et dit, « Je te prie, frappe cette nation de cécité. » Et les frappa de cécité selon la parole d'Élisée. Et Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville, venez après moi et je vous mènerai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les mena à Samarie et il arriva quand ils furent entrés à Samarie qu'Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux à ces hommes afin qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent. Et voici, ils étaient au milieu de Samarie. Et le roi d'Israël dit à Élisée quand il les vit, « Frapperai-je, mon père ?» Et il dit, « Tu ne frapperas pas. Ceux que tu aurais fait captifs avec ton épée et ton arc, les frapperais-tu ? Mets du pain et de l'eau devant eux, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent vers leur seigneur. » Et leur prépara un grand festin, et ils mangèrent et burent, et il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur seigneur. Et les bandes des Syriens ne revinrent plus dans le pays d'Israël. Là, on a une illustration de la foi, non pas quant à ce qui est notre espérance, mais littéralement quant à ce qui est notre quotidien. Alors, on est dans un contexte particulier. Israël, les adversaires d'Israël, le roi de Syrie, et puis Élisée, l'homme de Dieu, le prophète. Et dès le début du récit, on voit comment Élisée marche avec Dieu. Disponible pour entendre ce que Dieu a à lui dire. D'où Élisée pouvait-il savoir les intentions du roi de Syrie? Par lui-même? Certainement pas. Par d'autres personnes autour? C'est ce que suppose le roi de Syrie, qu'il y aurait un espion, qu'il y aurait un traître, qu'il aurait parmi son état-major, parmi ses proches, quelqu'un qui est pour le roi d'Israël et qui transmet ses décisions secrètes au roi d'Israël. Non, Élisée sait ce qu'il peut transmettre, les informations qu'il peut transmettre au roi d'Israël parce qu'il est à l'écoute de Dieu. Et si dans l'Épître aux Hébreux, on a surtout vu la foi comme quelque chose qui regarde, comme une vue, là il y a un autre registre, il y a ce côté d'une communication avec Dieu. Écouter, parler. Être à l'écoute de ce que Dieu a à me dire. Lui apporter toute chose. Toute chose. Et puis l'écouter, me parler. Et dans cette attitude, Dieu peut dire à Élisée des choses qu'aucun homme ne pourrait savoir. Élisée peut transmettre au roi d'Israël à plusieurs reprises, c'est dit verset 11 à la fin, cela eut lieu non pas une fois ni deux fois, c'est bien, on comprend bien ce que ça veut dire, ça s'est répété bien des fois. Et puis une deuxième étape, c'est le roi de Syrie qui veut mettre fin à ça. Remarquable qu'au milieu des serviteurs du roi de Syrie, quelqu'un sait que Élisée est dans cette situation, dans cette marche, dans cette dépendance de Dieu, dans cette relation avec Dieu. Chapitre suivant, nous avons l'histoire de Naaman. Un des serviteurs, est-ce que c'est Naaman lui-même, ou est-ce que c'est le témoignage de Naaman? Il est revenu guéri de sa lèpre. C'est quelque chose de remarquable. La manière dont il est rentré chez lui, la reconnaissance envers l'Éternel qui émane de tout ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a exprimé devant Élisée, une fois guéri, laisse penser qu'il n'est pas resté muet, d'où venait sa guérison. D'autres ont entendu. En tout cas, là, il y a une personne qui sait que Élisée, le prophète qui est en Israël, vit suffisamment près de Dieu, je formule autrement, je formule comment nous le formulerions, connaissant la foi d'Élisée, vit suffisamment près de Dieu pour connaître des choses qu'aucun homme ne peut connaître et rapporter au roi d'Israël tes intentions, les intentions du roi de Syrie. Alors, il faut prendre Élisée. Il faut l'empêcher de nuire. Donc on envoie une armée, des chars, des chevaux de grande force. Et là on a une autre facette. C'est le verset 15 nous dit « Celui qui servait l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit et y voit l'armée. » Au milieu du verset, « Et son jeune homme lui dit » Mais c'est le jeune homme, c'est lui qui servait l'Éternel. Il y a là un raccourci dans le texte qui nous montre au fond, qui nous fait silence sur tout un enchaînement de petits événements. Ce serviteur, ce jeune homme, est sorti, il a vu cette armée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, dans son âme? Probablement un grand affolement. Une armée pareille autour de Dothan, je ne sais pas comment était cette ville, est-ce qu'elle était entourée de murailles, bien défendue, ou au contraire, une ville ouverte, un gros village ouvert. En tout cas, il est catastrophé, affolé, et il rentre et il va dire tout à Élisée. Et alors, on a la réponse, on a ce cri du cœur, « Hélas, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il y a là quelqu'un qui voit un danger terrible, qui est serviteur de l'homme de Dieu et qui est tellement paniqué. Nous n'avons pas jugé de sa foi, nous ne savons rien de lui, nous ne savons pas grand-chose d'autre. Mais en tout cas, qui est tellement paniqué qu'il ne pense pas à regarder à Dieu. Mais il s'adresse à Élisée, son maître, le prophète qu'il sert et qu'il connaît. C'est comme un cri de secours, un cri au secours vers celui qui a la pensée de Dieu. Et la réponse d'Élisée est très belle. C'est la foi qui parle. Ne crains pas, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ne crains pas. Ne crains pas, il y a des choses que tu ne vois pas. On revient sur la vue, là, et la suite du chapitre sera entièrement autour de la vue. Ne crains pas, voilà. Crois, même si tu ne vois pas. Appuie-toi sur ce que tu sais de Dieu. Fais-lui confiance qu'il a une réponse, qu'il a une garde pour te protéger. Et alors on a cette prière. Éternel, je te prie, ouvre ses yeux afin qu'il voie. C'est les yeux du jeune homme qui sont ouverts et il peut voir. Il peut voir quoi ? La montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Quand Élie a été enlevé, Élisée a vu Élie enlevé sur un char de feu. La foi d'Élisée n'a pas perdu Élie de vue et a vu Élie partir et a vu ses chars de feu. Et ça a marqué la marche d'Élisée qui sait que Dieu peut le protéger en toutes circonstances. Il n'est pas dit que les Syriens aient vu ces chevaux de feu. Non, au contraire, parce que la prière suivante, c'est verset 18, « Je te prie, frappe cette nation de ces cités. » Eux sont rendus aveugles. Aveugles non pas pour qu'ils ne voient pas ces chars et ces chevaux de feu, mais aveugles pour qu'ils ne voient pas que sont en train, je le dis avec tout le respect, qu'ils vont se faire berner par Élisée. Ils vont se faire emmener malgré eux, menés par celui qu'ils viennent arrêter, qui marche devant eux, qui les conduit et ils suivent. Quel drôle d'armée! Et ils vont jusqu'à Samarie et ils entrent dans Samarie. Et ils se retrouvent en plein milieu de la ville adverse, entourés par tous les guerriers adverses. La foi d'Élisée qui... Imaginons la scène, Élisée, son jeune homme, seul, entouré de cette armée, et qui marche devant cette armée pour la conduire à Samarie, où ils entrent dans cette ville et où ils se retrouvent brusquement entourés de leurs ennemis. La foi qui voit, la foi qui rend aveugle, mais qui ouvre les yeux, la foi qui marche, et qui marche dans un chemin qui est à l'encontre de tout ce que le bon sens humain dicterait. Le bon sens humain, qu'est-ce qu'il aurait dicté ? Oui, la prière de Élisée, frappe cette nation de cécité que je puisse m'en aller. Voilà ce serait le bon sens humain. Aveugle-les pour qu'ils ne voient pas que je m'enfuis et qu'ils se retrouvent tout seuls sans moi et que leur expédition est ratée. Non, la foi va au-delà, Dieu a d'autres plans. Et alors ce qui est merveilleux dans ce chapitre, si on prend à la fin, je ne vais pas être trop long, les versets 21 et suivants, le roi d'Israël est dans la perplexité. Que faire ? Les ennemis qui sont là, en plein dans la ville, est-ce que je dois les frapper ? J'ai tout pour moi pour les éliminer, pour les liquider. Mais il interroge Élisée. C'est remarquable qu'il interroge Élisée. Et la réponse d'Élisée, c'est quoi ? C'est la réponse du Dieu de grâce. C'est la réponse qui, au lieu de répondre à l'épée par l'épée, répond à l'épée par du pain et de l'eau, la nourriture, le bien-être, la liberté. Et le roi l'écoute, leur fait un festin et les laisse repartir en paix. On a là dans ce chapitre une petite illustration. Il y en aurait plein, la parole est remplie d'exemples et d'illustrations qui peuvent compléter, étoffer tout cela, mais de comment la foi dans la marche sur la terre est en action. Abraham, dans les Hébreux, nous montrait la foi qui regarde loin, qui regarde vers le but. Et là, nous avons un exemple, une illustration de la foi dans cette marche, dans ce qui est notre quotidien. Et les deux sont liés par cette foi du quotidien qui voit dans le quotidien des réponses de Dieu, nourrit cette foi qui regarde au loin sur ce que nous savons que nous n'aurons, qui n'est pas partie de cette terre, qui ne peut pas avoir place sur cette terre. Il n'est pas possible que nous voyions le Seigneur sur la terre. Et non, la part quand nous verrons le Seigneur sera tellement meilleure. Si on repense à la fin de l'Apocalypse, toutes les choses qui ne seront plus. Plus ni larmes, ni pleurs, ni cris, etc. Et toutes les choses qu'il y aura en pleine mesure, dont nous ne faisons que effleurer la joie, une joie éternelle, la paix, une paix éternelle, et puis voir le Seigneur, l'entourer, être tous les croyants réunis autour de lui.